Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Donc, si vous avez la coutume de lire vos Bibles, c'est pas long qu'on lit dans la Bible quelque chose qui ressort tout de suite dès les premières pages, c'est l'idée d'avoir une lignée. L'idée d'avoir une lignée, il y avait le rêve parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite que Dieu enverrait un sauveur par une lignée. Et puis là, il y avait cette idée d'avoir sa lignée, d'être la lignée du Messie. C'était quelque chose pour les femmes, mais c'était aussi quelque chose pour les hommes. On voit souvent le nom des hommes être comme le nom qui propage la lignée. Et puis, pour l'homme, c'est important de laisser sa trace dans le monde. Déjà, moi, je me rappelle, j'étais petit bonhomme à Brossard, l'hiver, il y avait comme un gros tas de neige dans un rond-point. Puis, dans ce rond-point-là, qui était là au milieu? C'était tous les petits gars qui essayaient d'être leur chef de la montagne. Je ne sais pas pourquoi les filles ne venaient pas jouer. Ah, c'est vrai qu'une fois qu'on les avait jetés en bas, une fois ou deux, ils disaient « Ouf, tu dis quoi, je vais jouer à d'autres choses ». Mais c'est pas important pour les petites filles d'être la première en haut de la montagne, autant que c'est important pour le jeune homme de gagner tôt dans sa vie. Et l'homme est en quête d'importance, puis je pense que c'est quelque chose qui est donné par Dieu, que de vouloir être important, de vouloir laisser sa trace dans le monde, de vouloir avoir un impact dans le monde. Et les pères, c'est Dieu leur donne une partie de ce rôle-là, certainement, par le rôle de père. Puis, la dame, elle trouve sa racine dans les connexions, être connecté. L'homme trouve son sens dans l'importance qu'il a pour les autres. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, puis peut-être que vous êtes père, peut-être que vous n'avez plus de père. Fait que mes sympathies pour vous, mais en même temps, moi, c'est un tour de force prêcher. La fête des pères, fête des mères, là. Il y en a que leur père, c'était le meilleur père du monde, il y en a d'autres qui l'auraient changé bien des fois. Il y en a que leur mère aurait voulu les pitcher en bas des marches. Tu sais. Il y en a d'autres que c'était comme c'était Mère Teresa pour eux autres. Tu sais. Il y en a que leur père est mort. Il y en a qu'ils ont perdu un enfant. Fait que là, tu touches à toutes sortes de... Puis en plus, quand tu fais un message, ben tu dis, OK, c'est la fête des pères, mais il faut bien que je parle aux mères aussi. Il faut bien que je parle aux filles. Il faut bien que je parle... Fait que moi, la fête des mères et la fête des pères, c'est un défi. Je vous dis, c'est vraiment un défi. Puis, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à table, puis je pense qu'on va tous avoir un bon repas de la fête des pères ensemble autour de la parole puis de l'histoire. Donc, peut-être que votre père travaillait fort et ça permet à votre mère de rester à la maison puis de vous élever. Remerciez-le pour son travail acharné. Est-ce que votre père vous a défendu ou vous a représenté dans un litige avec l'école, une injustice avec un professeur, un directeur ou d'autres, des conflits à l'école? Est-ce qu'il vous a montré à couper le gazon? Est-ce qu'il a fait une cabane d'oiseaux avec vous? Est-ce qu'il vous a encouragé dans un sport quelconque? Est-ce qu'il assistait à vos présentations à l'école? S'il a fait quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le rappeler, que si vous vous en rappelez encore même dans votre vieil âge. Bien, si vous êtes vieux, vous êtes plus vieux en tout cas. OK, donc, les pères aiment savoir qu'ils ont fait quelque chose d'important pour vous. Et peut-être que vous dites, moi, quand je pense à mon père, je pense à qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et une des raisons pourquoi vous dites ça, si vous êtes ce genre de personne qui dit, moi, en tout cas, j'ai pas eu ça de mon père, eh bien, il y a une chose, par exemple, qu'on peut s'entendre, c'est que le rôle du père est important pour vous. Et que peut-être vous êtes fixé sur des choses qui n'ont pas été faites, mais ça n'enlève pas le fait que c'est important, un père. Et puis, on connaît le cœur de Dieu au travers de ça, pareil. Donc, si vous sentez que ce père-là n'a pas accompli ce rôle, moi, j'aimerais quand même qu'on soit doux envers les papas aujourd'hui. Puis, pour faire ça, ce que je vais faire, je vais me servir de l'histoire pour montrer que les pères, ils ont été placés dans un coin, que la société les a « cornés », qu'elle les a mis dans un coin. Et puis, juste de voir que les papas, ce n'est pas des hommes à tout faire. c'est pas des gens qui vont s'asseoir avec vous pour avoir une grosse discussion là, sur vos émotions nécessairement, ou c'est pas tous les papas qui vont être comme ça. On n'a pas tous ces outils-là dans notre coffre à outils. Puis une des raisons pour ça, l'histoire va nous montrer qu'on est devenus des gens très, très bons dans un, deux ou trois domaines de notre vie. Puis il y en a des domaines qu'on pourrait dire là, que la société attendait quelque chose de nous, puis on l'a livré ça, puis on l'a vraiment bien fait notre travail. Donc, on va voir ça ensemble ce matin. Puis j'aimerais ça qu'on justement soit plus doux avec les papas. Dans le psaume 78, on va lire du verset 1 au verset 7. C'est Asaph qui était un de ceux qui était responsable d'enseigner le peuple dans le temple. Hein? Et imaginez que lui, il voit quelque chose qui se passe dans sa société. Puis, tu sais, c'est un gars du livre, c'est un gars qui connaît sa parole. T'sais. Il dit, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. » Là, il ne dit pas à ses enfants, il dit à leurs enfants. Parce que c'est un enseignant, c'est un preacher. Lui, il veut que tout le monde, tous les enfants de la nation soient enseignés. Hein? Il dit, on ne le cachera pas à leurs enfants. Hein? Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue à la génération future, que les enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parleraient aussi à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Le cœur de Dieu ici pour la famille. Le cœur de Dieu pour les pères qu'on voit dans ça. Il dit, ce que les pères ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Et on ne raconte pas un enseignement, on raconte quelque chose qui s'est passé. On raconte des histoires qui sont arrivées. Et les histoires, c'était quoi? C'était les histoires de comment que Israël avait été sauvé de l'esclavage en Égypte, comment il avait été délivré, comment Dieu avait pourvu à eux quand il manquait de pain, etc. Comment ils ont marché dans le désert puis que Dieu était bon pour eux, même malgré les temps difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-le à tes enfants pour que tes enfants le racontent aussi à leurs enfants. C'était des faits, c'était l'histoire. Et donc, l'histoire a besoin d'être racontée aux enfants. Et Asaph, qui est un Lévite, sait et dit que ça ne doit pas être caché à la génération future. Pourquoi? Parce que quand on apprend de l'histoire des hommes, on apprend aussi comment Dieu a interagi avec l'histoire des hommes. Puis on apprend aussi comment on est en tant qu'homme aussi. Donc, ça nous amène à dire comment moi, en tant qu'homme, en tant que femme, comment est-ce que je peux marcher dans ce monde avec ce Dieu-là qui interagit dans l'histoire? Et donc, l'histoire est importante. Et puis les pères, notamment les pères, il y a une emphase qui est mise sur les pères de laisser un héritage de leur vie à leurs enfants afin qu'eux aussi, lorsqu'ils vont devenir parents, veulent laisser l'héritage à leurs petits-enfants et ainsi de suite. Et à la fin de mon message, on va revenir sur ce passage. Est-ce que vous vous souvenez, femme, mère, que j'ai parlé il y a quelques années de la mère et la révolution industrielle? Qui se souvient de ça? Donc, est-ce qu'il y a d'autres des gars qui s'en rappellent? Levez la main, ne soyez pas gênés. OK, ça va être une révision de ça, mais du côté homme. Donc, il s'est passé quelque chose dans notre société dans les 300-400 dernières années qui a vraiment changé complètement le rythme à laquelle on vit nos vies, la manière qu'on interagit avec nos familles, nos enfants, entre époux et épouses aussi, et qui nous montre aujourd'hui pourquoi on est rendu une société qui est très individualiste, où chacun cherche à tirer sa partie de bonheur et il essaye quand même de garder la famille dans tout ça. Donc, la révolution industrielle, c'est quoi? Ben, je vais en parler tantôt. Mais avant cette révolution-là, il s'est passé quelque chose. L'état de la famille. Faisons un portrait de la famille qui se rappelle ici de Laura et la famille Engel, la petite maison en prairie. Vous vous souvenez de ça? Donc, faites cette image-là dans votre tête. C'est qui est à la maison? La maman, puis qui d'autre? Charles! Charles, il est là. Quand les enfants reviennent de l'école, ils trouvent un père puis une mère à la maison. Pourquoi? Parce que Charles travaille là. Ou travaille-tu à Syrie? En tout cas, je ne sais pas. Mais on voit dans le temps de la famille dans la prairie, c'est pas rare de voir la jeune blonde servir au dépanneur là, dans le magasin de ses parents, puis elle n'a même pas 9 ans, hein, la petite malcommode. On se rappelle d'elle, étais-tu fatiguante? Comment s'appelait elle, la petite blonde? Nelly Latta, ben ouais, on était choqués après elle. OK. Il y avait cette identité-là dans le village, cette identité-là dans la famille, mais la famille était une unité économique indépendante, c'est-à-dire qu'elle avait besoin quand même des autres pour vivre, mais chacun avait besoin des autres familles, mais elle se suffisait en termes de leurs produits. Ils produisaient quelque chose, le vendaient, et donc ils étaient un système, une petite unité économique suffisante. Et le monde extérieur rentrait dans le monde de la vie privée, dans la partie avant. Soit ton magasin, tu restais en haut du magasin, soit tu étais un ferblantier, puis la partie d'en avant, c'était ton métier, puis en arrière, c'était comme ta cuisine. On pouvait voir comme, si vous venez à Saint-Valère, la cuisine du bureau de poste, de la femme qui travaille au bureau de poste. Mais c'est fermé de 11h à 2h, par exemple, encore en 2007. Petite annonce, si vous voulez venir à Saint-Valère, il faut que vous alliez chercher votre poste quand c'est ouvert. OK. Bon. Petite maison dans la prairie, les pères étaient impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Les pères avaient un rôle sacré d'être la tête de la famille, mais pas comme des messieurs qui voulaient juste tirer la meilleure partie de leur vie, mais ils avaient cette idée que le rôle était plus important que l'accomplissement personnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on appelait ça la masculinité communautaire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, dans le fond, qu'on s'attendait que l'homme place son devoir communautaire, qui était de la communauté ou sa famille, qui était sa petite communauté, le devoir envers cette famille-là comme plus importante que son propre épanouissement ou place économique. Donc, avant d'être quelqu'un qui fait de l'argent, qui est riche, qui est reconnu comme pour être important, c'était plus important d'être reconnu comme ayant pris son rôle au sein de sa communauté. Hein? Et donc, c'est une valeur qui est beaucoup plus biblique, comme on regarde dans 1 Corinthiens 12. L'oreille ne peut pas être le nez et les yeux, et chaque partie a besoin de prendre sa place dans le corps de Christ. Puis de la même manière que la Bible décrit le corps de Christ, je trouve que cette vision du monde était beaucoup plus biblique que celle qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'attendait? Bien, on s'attendait du Père qui se sacrifie. Donc, est-ce que quelqu'un a peur d'avoir quelqu'un qui serait le chef ou l'autorité d'une famille quand on sait que celui-là, il veut se sacrifier pour le bien de tous ceux qui sont sous lui? Non, ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir un chef qui pense juste à ses intérêts et qui essaie de tirer un maximum de tous ceux qui sont sous lui. Donc, on n'attendait pas le père après qu'il y ait eu une grosse journée de travail, puis là, il ne fallait pas le déranger parce qu'il avait travaillé fort. On ne l'attendait pas après sa journée de travail. Non, on travaillait avec lui et les enfants étaient ses apprentis, puis la femme, c'était son héritage d'une certaine manière. Si le mari était pour mourir, elle était aussi héritière du métier de son mari, elle était son apprentie, elle aussi. Et puis ensemble, comme ça, ils formaient les enfants. Et là, ce qui arrivait, c'est que, tu sais, un gars, t'as pas un gars avec son fils pour parler de douleur émotionnelle, à moins qu'il y ait un training. Tu sais, on n'est pas là. Okay? Par contre, si on est en train de scier des planches, on peut parler avec notre gars, on peut parler avec notre fille, puis on peut jaser un petit peu. Puis des fois, quand elle va remarquer ça, des fois, quand on est en auto, on peut parler de choses parce qu'on n'est justement pas face à face. Bien, l'idée de faire des choses ensemble, le père était le formateur de son fils, mais il y avait donc cet échange-là. Et donc, non seulement c'était son employé, c'était son ami et des fois son confident. Le contexte naturel faisait qu'on connectait. Il n'arrivait pas à la fin de semaine, il disait « Ah, j'ai travaillé toute la fin de semaine, tu penses-tu que je vais commencer à te montrer à faire le gazon? » Là, c'est toi, le jeune, va jouer dans ton Nintendo, là. Moi, je vais faire ce qui appartient à la maison. Ce n'était pas ce contexte-là, comme le contexte plus moderne aujourd'hui. Alors, on avait des relations tout au long de la journée. Le jeune revenait de l'école de rang, puis il venait travailler dans le dépanneur, tu sais, il venait servir les clients. Lui-même, il servait les clients, il était enfant, puis il travaillait. Fait que c'était comme « Wow! » Saviez-vous que les pères étaient en charge de l'éducation, que les livres sur l'éducation étaient écrits pour les papas prioritairement et les deux parents, mais en priorité pour les pères? Et on croyait que les pères étaient responsables de comment leurs enfants étaient pour devenir dans la société. Est-ce que c'est ce qu'on croit aujourd'hui? C'est un autre message. C'est une autre réflexion. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie, c'est de comprendre nos racines. Il y avait une unité familiale indissoluble. On mangeait ensemble. On allait au dodo ensemble. Et papa faisait le ménage autant que la femme. Il travaillait, pourquoi? C'était la compagnie. C'est la maison, la compagnie. C'était comme un petit peu un mélange de tout, mais il fallait que ça fonctionne, cette affaire-là. Et il était en charge. Et on référait à lui lorsqu'il y avait des problèmes. Les pères étaient aussi impliqués dans la maison. Ils étaient de bons cuisiniers. Ils étaient en charge des tâches ménagères. Les livres de décoration, de cuisine, leur étaient aussi adressés. Luther, un des grands réformateurs, ça se passe de l'autre côté du continent, mais il disait quand même un peu comme ses frères puritains et ses chrétiens de ces années-là. Comme au temps de Luther, il était normal qu'il change des couches. Quand un homme lave des couches et fait toute autre tâche pour ses enfants, et quelqu'un le traite d'efféminé, disait Luther, il doit se rappeler que Dieu et les anges le regardent et sourient. Le mot contraste qui vient avec notre société, c'est les deux mots suivants. C'est intégration, fragmentation. Intégration, on était intégrés. Les papas étaient intégrés dans le milieu familial. Et aujourd'hui, fragmentation. Intéressant. L'ère industrielle aux États-Unis, ça a commencé dans les années 1780 et ça s'est passé sur un demi-siècle. Ça a été très rapide, jusqu'en 1830. Ici, au Canada, on a suivi pas trop loin après, en 1850 jusqu'à l'an 1900. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On va en faire plus. Plus de chandelles, plus de courtes pointes, plus de ferblanterie, plus de bois. On va commencer à faire venir des... Il y en a qui vont juste couper des arbres, puis il y en a d'autres qui vont juste transporter des arbres, puis il y en a d'autres qui vont juste transformer des arbres, puis il y en a d'autres qui vont juste faire construire des maisons. Et là, on a commencé à dire, hey, on peut en faire plus. Plus, c'est mieux. Le progrès, c'est, on appelait ça le positivisme. Ça venait du positivisme. C'est un courant de pensée qui disait, pose-toi pas de questions sur le pourquoi de la vie, fais juste poser des questions sur le comment de la vie. Puis le progrès, c'est la source du bonheur. Donc, plus qu'on a du progrès, plus qu'on va être heureux. Pensez-vous? Peut-être. En tout cas, ça rend le malheur plus confortable, ça, c'est certain. C'est certain, puis on remercie pour Dieu pour le progrès dans plusieurs domaines. Par exemple, pour les cancers, on a découvert que les cancers se mangeaient du sucre. Hein? On a vu ça, j'en parlais avec ma femme dernièrement. Elle a vu ça. Ils commencent à attacher la chimiothérapie après le sucre pour que la chimiothérapie, au lieu de tuer toute la vie qui est en nous, il y a le tuer juste comme prioritairement la cellule cancéreuse. C'est, merci Seigneur pour le progrès. On va continuer à en parler pareil du progrès. Donc, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, tu veux m'avoir dans ton usine? On va faire plus de... OK, c'est cool. J'amène ma femme puis mon enfant. Fait que là, ils ont commencé à voyager avec leurs enfants à shop. Puis là, je veux dire, ça a commencé à causer des conflits. Fait qu'ils ont dit, bien, garde, moi, tu me veux, c'est pas le problème. Moi, je vais faire ma partie de la production chez nous. Fait que toute la partie qu'avant, on faisait de A à Z, bien là, je vais faire juste W, mais je vais le faire avec toute ma famille chez moi. Puis là, il y a une tension qui continue à grandir parce que c'était toujours plus de progrès. Fait qu'on a commencé à faire une division entre l'industrie puis la maison. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? On a séparé la famille, puis le travail est devenu différent parce qu'il y avait de la compétition et les valeurs étaient différentes, beaucoup plus différentes que papa qui prend le temps avec son fils d'y expliquer des choses. C'est comme toi, là, faut que ça roule. Là. Et là, il s'est passé quelque chose dans les relations. Et même la manière d'apprendre a changé. À cette heure, j'ai affaire à un formateur, puis moi, je suis un atome individuel qu'on peut remplacer comme un équipement. Puis lui, le formateur... Bien, je le connais pendant le temps que je vais me faire entraîner, mais je ne développerai pas, je n'ai pas d'amitié avec lui. À la limite, je ne connais pas son nom, puis je peux faire mon travail. Fait que la société, la manière d'apprendre, la manière de faire notre travail est devenue très individualiste. Et aujourd'hui, je suis dans une chaîne qui est souvent, je suis spécialisé dans un domaine, deux domaines, comme je dis au début de mon message. Et on trouve aujourd'hui des gens qui sont très connaissants au niveau intellectuel, mais ils ont de la misère à aller changer une sortie de sécheuse dans leur maison. Puis, c'est normal, parce que notre société n'a pas développé un papa qui s'est à peu près tout taponné dans la maison, puis qui a pris son fils avec lui. Puis non, il l'a laissé jouer après ses jeux vidéo, puis lui, il est allé faire la salle de besogne de réparer la maison. Puis réparer la maison, ça n'était même pas partie du travail, c'était comme le mal nécessaire après avoir une dure semaine au travail. Fait que toute la manière d'aborder les relations dans la famille et le travail ont changé. Et donc, avant, on produisait en fonction des saisons. Mais à cette heure, tu trouves ton frigidaire. Tu sais, avant, on était des chasseurs-cueilleurs, mais on n'avait pas de frigidaire. Fait qu'on mangeait plus de la viande, mettons, l'hiver, puis des fruits, des petits fruits l'été, tu sais. Mais là, aujourd'hui, tu rouvres ton frigidaire. Qu'est-ce que tu trouves? Toutes les saisons sont dans ton frigidaire. Fait que même au niveau alimentaire, on en parlait un matin, ça l'a même influencé ça. Mais pour rester un petit peu dans notre sujet, les saisons dictaient un petit peu, puis les besoins de la communauté dictaient qu'est-ce que tu devais produire, qu'est-ce que tu devais faire. Mais là, c'est plus ça. Parce que maintenant, on a le charbon, on a toutes sortes de, on a le train, on peut faire transporter du stock, puis on le fabrique à une place, on l'envoie à l'autre, puis là, les transports ont commencé à changer toute la donne de notre façon de consommer. Fait que là, on n'était plus dicté par la saison ou par les besoins, parce que les besoins, il y en avait partout. On pouvait aller plus loin, puis combler des besoins. Alors, c'était le temps de la machine, la capacité de la machine, c'est ça qui est venu décider maintenant de comment est-ce qu'on vivait nos vies. Les gens, vous et moi, on est de plus en plus considérés comme des parties remplaçables d'un système, OK? Mais là, ça veut dire ça que ce qui est né de ce système-là, c'est l'individualisme, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on doit faire notre place au soleil pour être celui qu'on veut engager, pour être celui qu'on veut garder, celui qui est le plus performant, celui qui est le meilleur, celui qui charge moins cher, etc. On est rendu dans un monde où il faut se vendre et donc essayer d'être… Il y a une lutte envers les pères qui est arrivée, qui n'existait pas avant. Je n'étais pas en lutte contre mon propre fils quand je l'entraînais dans la… Non, mais je suis en lutte contre le couvrier qui va peut-être avoir la promotion à ma place. Tu sais. Et les relations vont changer. Et la façon de vivre la communauté a changé aussi. Hein? Les gens sentaient que ça ne tournait pas rond. En dedans de 50 ans, ça avait complètement changé de communauté à individualité. L'important, c'est que le groupe soit heureux. Après ça, c'est que je sois heureux, que je puisse m'accomplir. Et là, les gens ont commencé à revendiquer l'importance des valeurs durables, comme l'amour, la moralité, la religion, la générosité, le sacrifice personnel. Et donc, ça prenait des héros pour crier ces valeurs-là. Et on les reconnaissait comme étant importantes et devant être défendues par la société. Et qui était le mieux pour défendre ça? Les mamans! Les mamans! Pourquoi les mamans disaient à Krim, c'est qui garde les enfants et qui est torche pendant que tu es à l'usine toute la journée? Fait que là, il est devenu comme un genre de… Puis tu t'arrêtes à la taverne le soir, puis tu ne reviens même pas, les enfants sont couchés, tout ça. Fait qu'ils sont devenus les dompteurs de la bête. C'est-à-dire que la société, de plus en plus, elle a dit, écoutez bien ça, la société a changé ses vertus en l'espace de 50 ans, qu'avant, c'était important d'accomplir son rôle. À cette heure, ce qui est important, c'est de produire puis faire avancer la société. OK? Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des lois qui ont interdit les dames et aux enfants de travailler. Hey, c'était rendu dangereux. On était dans un monde compétitif. On amenait nos enfants à shop. Tu sais, je veux dire, c'était rendu dangereux pour nos enfants, les enfants qui travaillaient dans les mines, etc. Et donc, on a fait des lois qui ont empêché les enfants d'aller travailler, les femmes aussi d'aller travailler pour protéger la famille, puis les valeurs de l'amour, la moralité, la religion, la générosité, pour garder un genre d'équilibre dans le monde. Est-ce que c'était bien? C'est pas ça que je dis. Je dis que c'était des lois. On peut comprendre peut-être pourquoi les mouvements de la femme ont dit « Hey, c'est pourquoi que nous autres, on restera à la maison, puis que les hommes vont sur le marché du travail. » Mais c'est pas vraiment le but aujourd'hui. Qu'est-ce que là, ça a changé pour les hommes? Mais ça a changé pour les hommes que ce qu'on s'attendait d'eux, c'est qu'ils soient séparés de la maison pour aller travailler de longues journées. Et ils ne peuvent plus agir comme parents responsables de la maisonnée parce que c'est la maman qui prenait beaucoup de temps avec les enfants. Donc, c'est elle qui est devenue en charge de l'éducation. Les livres sur l'éducation des enfants, c'est à la maman que c'est revenu. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait? On ne pouvait plus assister leurs jeunes à apprendre des nouveaux talents et à devenir des adultes accomplis. Donc, les jeunes devenaient de moins en moins instruits par leur papa. Le papa qui leur communiquait un savoir-faire, une manière de vivre, comment devenir un adulte responsable dans le monde, ça a été laissé à la maman. Et ils ont fait une bonne job. Et on est vraiment reconnaissant. Ça, c'est à la fête des mères qu'on parle de ça. Là, on parle des pères. Et donc, la maison n'est plus un lieu de production où on travaille ensemble, mais c'est un lieu maintenant de consommation. Et on n'a plus le sentiment de faire partie d'un milieu économique. Puis les femmes vont commencer à se sentir, à être vives au crochet de monsieur. Monsieur travaille, monsieur ramène l'argent, puis moi, je vis à ses dépens. Et donc, va arriver des révolutions, les révolutions tranquilles, des révolutions où ce que la femme va dire, hey, « moi aussi, j'ai ma part, j'ai mon mot à dire dans ça. » Et les vertus qui ont changé la suivante. Avant, l'homme considérait que c'était utile d'atteindre son devoir pour le bien commun. OK? Puis, ce qui était vertueux, c'était, tu voudrais être riche, tu voudrais t'accomplir dans la vie, tu mets ça de côté pour le bien de ta famille. Ça, c'était considéré comme vertueux. Okay? Dans le nouveau monde, ce qui est vertueux, et c'est encore ce qui a cours aujourd'hui, c'est d'avoir mieux que les autres. C'est de tirer son épingle du jeu. Non seulement c'est vertueux, c'est essentiel que vous en ayez plus si vous voulez faire avancer notre société. Il y a un homme qui a dit ceci, qui s'appelle Leslie Newbegins. Il a dit, par une remarquable inversion, les hommes ont commencé à voir dans la convoitise non seulement une loi de la nature, mais l'engin du progrès par lequel le but de la nature peut s'accomplir. C'est bon, la convoitise. Parce que si tu en veux plus, tu vas faire avancer la locomotive plus. Fait que c'est bon, la convoitise. Grosso modo, c'est ce qu'elle voulait dire, cette citation-là. Et la philosophie avant, c'était de protéger la communauté. Depuis l'ère industrielle, c'est protéger l'individu qui est au centre de cette... Il n'y a plus d'idée de communauté. Puis, vu que c'est toi qui es important, puis ton épanouissement personnel, tu peux rompre avec toutes les valeurs du passé. C'est plus important, les valeurs du passé, là, la famille, toutes ces choses-là. Tu peux briser ça. La maison est considérée comme le dernier bastion. Puis, si j'avais le temps, il y aurait vraiment quelque chose de beau à dire là-dessus, mais l'Église est devenue féminine. Les pasteurs ont commencé à dire « Ouais, les femmes sont plus spirituelles. » La société a dit « Les hommes peuvent finir à la taverne, vivre dans l'immoralité. Ça, c'est pas trop grave comment ils vivent leur vie, pourvu qu'ils fassent tourner la machine puis que, tu sais, ils s'accomplissent dans le monde. Ils ont-tu de l'argent? Ils ont-tu de l'influence? Oui, c'est vertueux. » C'est ça que la société a dit. Fait, qu'est-ce qui est arrivé? Les pasteurs ont dit « Ouais, c'est vrai. Hein? Hey, si le gars il a le choix entre finir son travail ou bien non venir à l'église, il va dire à sa femme « Vas-y avec les enfants. » Vas-y avec les enfants, j'ai du travail à faire. Parce que dans sa tête, ce qui est vertueux, ce n'est pas de devenir la personne qui est appelée à devenir dans son caractère nécessairement, mais c'est d'obtenir plus de profit puis de prospérer. Et donc, l'Église est devenue un endroit de protection encore des valeurs. Puis je vais vous lire juste une petite citation de ce temps-là. Les penseurs chrétiens de ce temps-là, écoutez bien ça. Je crois que la chrétienté doit fuir la maison des grands, l'académie des philosophes, les cours des législateurs, la foule des hommes actifs, et nous devrions trouver, dans sa dernière retraite, nous devrions la trouver avec les dames près du foyer. Son dernier autel devrait être le cœur de la femme. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? On savait que ça ne tournait pas rond dans le monde, fait qu'on s'est dit... On va sortir des cours de philosophie, on va sortir des cours des grands décideurs, on va sortir des débats publics. C'est pas bon, ça. Puis on va faire l'Église. C'est un peu ça que ça disait. Et on va vivre des expériences et on va parler de nos sentiments. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a plus de philosophes chrétiens, il n'y a plus des gens pour influencer la pensée d'un peuple. Il n'y avait personne pour dire que la foi, c'était bien plus que des expériences puis des émotions. C'est aussi une intelligence qui est fondée sur les faits de la parole de Dieu. Et donc, puisqu'ils ont sorti des débats publics, qu'est-ce qui est arrivé? L'Église est devenue, la foi est devenue, pour l'homme moderne, une retraite, un genre d'expérience que tu vis en dehors du monde, un genre d'expérience mystique. Puis c'est pas ça. OK, on va regarder un petit vidéo. On va regarder juste un petit vidéo, puis après ça, je vais venir amener des pensées de conclusion qui sont vraiment intéressantes. J'ai traduit ça pour vous hier soir, puis je pense que ça va bien résumer, puis je vais venir conclure ensuite. Père-là, vertueux, ben la vidéo commence avec le grand-papa qui dit que son fils a laissé deux héritages. Il parle bien sûr de sa petite-fille, mais il parle aussi du Ice Bucket Challenge. Est-ce que vous vous souvenez de ça, cette idée où ce que tout le monde se challengeait de s'envoyer de l'eau glacée sur la tête? On trouvait tout ça niaiseux. Mais là, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai compris que c'est à la source, c'était quelqu'un qui, justement, perd toutes ses fonctions, puis qui a ramassé 100 000 $ pour la cause. Intéressant. Pete était incapable de parler, travailler, performer, mais il croit que ça vaut la peine de vivre. Il croit que ça vaut la peine de vivre pour voir sa fille grandir. Son témoignage nous montre qu'il y a plus que d'être performant. Il y a plus que, pour avoir de la valeur, pour être important, il y a plus que juste faire quelque chose pour être important. Le père John aussi a dû lutter contre un système de valeurs qui est très enraciné dans notre société, qu'on est quelqu'un par nos performances puis notre carrière. Et il dit, mon fils a tombé dans les marches. Puis à force de le voir tomber dans les marches, il dit, je luttais entre voir ou ne pas voir. Puis il dit, je ne peux pas continuer comme si ça n'existait pas, il dit. Il doit y avoir plus que ma carrière et mon travail. Je suis là pour lui. Il a quitté son travail, il l'a accompagné pendant des années, jusqu'à temps que ça devienne un cas trop lourd, puis que là, c'est des soigneurs qui en ont pris soin. Mais quand même, quel papa! Ça vaut la peine d'être mentionné. C'est des actions qui s'éloignent de l'égoïsme, puis qui nous montrent qu'on peut être important pour quelqu'un, pas juste en tant que pourvoyeur, mais de d'autres manières aussi. Son fils a dit que son rôle de père fut d'être à son père. Il a dit que son père, c'était d'être encore son père. Il a dit, le rôle que mon père a joué, c'est d'être encore mon père. Et il m'a assisté. J'ai trouvé que le projet commun qu'ils ont eu de voyager pendant un an de temps avec l'équipe des Eagles a fait peut-être même rattraper ce que notre société a complètement perdu, c'est qu'un temps, un père passe du temps avec ses enfants. Et ils disent que dans cette année-là, ils ont pu vivre qu'est-ce qu'il y avait à vivre ensemble. Puis ça a été, le père il dit qu'ils ont pu se dire des choses que ça prendrait le temps d'une vie pour se dire. Des projets en commun. Je pense que les pères et les filles et fils ont besoin de trouver des projets communs pour passer du temps. Dans une société où nous, on veut faire notre place sous le soleil, on place nos parents dans des centres de vie où ils se placent eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont encore dans une maison et ont de la misère à laver leurs armoires. Peut-être qu'à l'automne, ils sont obligés d'engager quelqu'un pour venir ramasser les feuilles sur le terrain. Crime! Pourquoi pas faire une journée de corvée et dire aux petits-enfants, hey, venez avec nous autres, essayez d'inculquer quelque chose à nos enfants. Puis on va aller faire le ramassage des feuilles et on finit ça avec un souper. Grand-père, il est bon dans quelque chose que nous autres, on n'est pas bon dedans. Pourquoi pas utiliser ces moments-là pour lui demander d'inculquer quelque chose à nos propres enfants? C'est des exemples comme ça. C'est juste des exemples. Ils sont proches de moi. C'est des choses que je serais capable facilement de faire. Peut-être travailler sur la rénovation d'un cabanon ou valoriser le temps de l'apprenti et du formateur. Peut-être que le rôle est inversé parce que dans notre société, nos propres parents sont devenus des spécialistes dans un domaine. Fait qu'ils ont bien des choses qu'ils n'ont pas appris. Ça peut être de montrer comment se servir d'un ordinateur. À un papa, à un grand-parent, etc. L'idée, c'est de trouver des projets qui sont communs, qui vont faire que la vie va passer, puis on va dire, comme le père de le monsieur John, ça ne doit pas être juste ça, la vie. Ça ne doit pas être juste ma carrière, ma vie. Ça ne doit pas être juste ça, ma vie. Le père, on voit aussi dans le reste du vidéo, le père qui est en colère contre une injustice, il sent que c'est injuste qu'un jeune ait ça, ça devrait être la maladie d'un vieux, puis qui dit en un battement de cœur, je prendrai sa place pour que lui puisse être soulagé parce que je le vois souffrir. Le désir d'être prêt à prendre la place de l'autre est une belle démonstration de comment on peut s'éloigner de l'égoïsme. La valeur du bébé qui naît est précieuse, puis les gens sont importants. Tu sais, lui, il dit, moi, j'aimerais ça, dans le fond, il est sur un respirateur. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Je n'ai pas vraiment eu le temps de tout regarder la vie de ce père-là. Mais il disait qu'il voulait rester en vie pour elle. Les gens ont de la valeur. Vous savez quoi? Il faut leur dire à nos pères qu'ils ont eu de l'importance pour ce qu'ils ont fait, mais il faut aussi être capable de leur dire qu'ils ont de l'importance pour ce qu'ils sont. Puis, quand que nos parents sont âgés ou plus ils vieillissent, plus ils perdent de leur capacité, puis moins ils sentent qu'ils ont de la valeur puis qu'ils sont importants. Des fois, ça peut se convertir simplement avec un téléphone de temps en temps. Pour dire, je pensais à toi, je voulais juste t'appeler, comment ça va? Donc, les gens, nos pères, ne sont pas juste importants pour leur accomplissement, mais ils le sont, ils ont de la valeur. Tu entends dire que ton père a un massage, que ça lui fait un terriblement bien, ça lui enlève un mal, mais ce n'est pas couvert par l'assurance sociale, l'assurance santé. Puis, il n'y a pas un moyen de continuer à faire ce traitement-là. Puis, toi, tu es capable de gratter 60$ par mois pour aller lui donner ça. Elle était en train de dire, quoi? Tu as de la valeur. Hein? Ils ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont plus que juste ce qu'ils accomplissent. Dans la vidéo aussi, on voit la maman qui, à chaque matin, amène l'enfant. Puis, elle dit, c'est comme un petit rituel qu'on s'est fait. Une petite routine qu'on s'est faite. Et puis, on peut, nous aussi, avec les gens qui nous sont importants, mais là, je parle parents-enfants, avec nos enfants aussi, mettre des petits rituels en place comme on a fait dans notre famille avec le souper de famille, où ce que, dans le fond, ma femme m'a comme dit à un moment donné que mes enfants ne me reconnaîtraient plus là, si jamais je ne m'arrêtais pas. Puis, qu'on a commencé à dire, on va faire une soirée en famille par semaine. Puis là, on a commencé à faire une soirée en famille par semaine. Puis, à un moment donné, ils sont partis de la maison. Puis, qu'est-ce qu'on entend? On se fait organiser des soupers de famille. C'est les enfants qui nous le demandent. On est content de ça. Donc, quels seraient vos rituels qui pourraient nous faire un petit peu arrêter dans cette société où l'individu est à la place de la communauté puis de la famille et qui nous permettrait de reconnecter avec nos pères, avec nos enfants? Je finis avec le verset, comme on avait commencé au début. « Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Hey, » c'est quoi, mes petits-enfants? Ils vont savoir qu'il n'y a pas juste la technologie, puis le fun dans ce monde, il y a aussi l'éternité, puis la joie éternelle proche de Dieu. Un jour, leur âme, il faut qu'elle soit sauvée. Il n'y a pas juste ça dans ce monde. Ce que nous avons entendu, nous ne le cacherons pas aux enfants de nos enfants. Ils vont le savoir. Je ne sais pas comment ils vont le savoir. Mes enfants le savent probablement, mais mes petits-enfants vont le savoir aussi. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, ils en passent par là à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu aussi leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Savez-vous quoi? Si vous continuez à lire le passage, vous allez voir toutes les œuvres que Dieu a faites, les grandes œuvres, la séparation des eaux, tout ça, puis tu vas voir, et ils ne cherchèrent point l'Éternel. Et ils vivent, dans le fond, ils ne se soucièrent pas de l'Éternel. Ils mirent les paroles de l'Éternel derrière eux. Et Dieu fit ceci, et Dieu fit cela pour eux. Et ils étaient supposés de prendre ce que Dieu avait fait, puis de le raconter, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'Azaph, il dit, nous le dirons à leurs enfants. En tant que pasteur, en tant qu'enseignant, il dit, sais-tu quoi, même s'ils ne le font pas, je vais le faire. Tu sais. Je vais aussi agir comme un père pour d'autres enfants dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Des papas qui n'ont pas réalisé la place qu'ils avaient, l'impact qu'ils avaient de faire apprendre de l'histoire à leurs enfants. Hey, sais-tu quoi, mon kid? Nos grands-parents se sont éloignés complètement. Mais sais-tu quoi? Je reviens à Dieu. Puis tu peux faire comme moi. Je peux changer l'arbre généalogique. Mes parents se sont éloignés, mais moi, je suis revenu. Puis sais-tu quoi, on peut apprendre de l'histoire? Regarde l'histoire, regarde les 300-400 dernières années, c'est n'importe quoi. Tu sais. Mais est-ce que notre famille est obligée d'être comme ça? Est-ce que c'est obligé qu'on soit éparse et qu'on n'ait pas de rituel justement pour se retrouver? Et de replacer le devoir envers ma famille comme plus important que juste mon épanouissement dans le monde. Inculquer ces valeurs-là à ces enfants-là pour que quand leurs parents eux-mêmes vont être malades, ils vont prendre soin d'eux autres parce qu'ils vont réaliser qu'on rend à nos parents ce qu'on a reçu d'eux aussi. Et donc, on ne peut peut-être pas changer la société parce que la société est basée sur plein d'individus qui poursuivent le bonheur. Par contre, on peut influencer notre société. On peut influencer nos enfants. On peut changer l'arbre généalogique puis dire, sais-tu quoi? Comme le père, il n'y a pas juste ça dans la vie. Il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste ma carrière, il n'y a pas juste les valeurs de ce monde. Et parce que le plan de Dieu, dans le psaume 78, c'est écrit qu'ils ont tous pris une débâcle et qu'ils n'ont pas montré à leurs enfants, à la fin, il dit, mais Dieu s'est choisi un homme, David, qui les a conduits avec un cœur intelligent. Et encore, tu regardes la vie de David, puis tu dis, il a fait une méchante bonne job avec le peuple d'Israël, mais il a vraiment, tu regardes sa famille, puis tu dis, oh là là. Malgré tout ça, le plan de Dieu est rempli de débâcles, d'égarements, mais il est rempli de besoins de pardon. Le besoin d'être pardonné. Puis peut-être dans vos familles, c'est ça le besoin. Le besoin, c'est de pardonner et de montrer à l'autre qu'il a de la valeur encore. Dieu a dit, je n'ai pas abandonné Israël. Fait que même si Israël et les pères se sont éloignés, Dieu dit, je vais envoyer un gars qui s'appelle Jean-Baptiste et il ramènera le cœur des fils vers leur père. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jean-Baptiste, c'est ce qu'il a fait. Il nous a présenté le Messie. Et le Messie, c'est exactement lui qui ramène le cœur des fils vers leur père. Comment? Par le pardon, par la grâce, par l'amour inconditionnel démontré en la personne de Jésus. Que cette fête des Pères soit spéciale pour vous, chers papas, qu'elle soit spéciale à cause de la grâce de Dieu, à cause que vous en avez besoin, mais aussi parce que vous êtes spécial, puis vous avez un impact, il y a des petits yeux. Il y a des petits yeux qui sont sur vous, et puis vous pouvez changer l'arbre généalogique. Vous êtes peut-être un monon, vous n'êtes peut-être pas grand-parent ou papa, mais il y a des enfants. Comme tu peux dire comme Asaph, sais-tu quoi? Ce que les pères devaient dire à leurs enfants, nous le dirons à la génération future. Il y a des petits-enfants quelque part, puis l'idée c'est ça, c'est que ça peut être un neveu, que ta sœur, ben, il n'y a pas de papa dans la vie de cet enfant-là. Moi, j'ai vu ça dans le passé, un monon qui encourage un enfant, puis l'enfant finalement est allé dans une église chrétienne. C'est pas merveilleux, ça? Donc, c'est ça, j'ai fini. C'était mon temps aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fête des Pères, que l'Éternel vous bénisse, puis j'espère que ça a été instructif pour vous. C'est toujours un petit peu plus du casse-tête quand je parle d'histoire, parce qu'il faut vraiment que j'aille gruger pas mal un os. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va se souvenir beaucoup. De savoir dans quelle société on est, puis pourquoi on est rendu là, dans cette société qui fait placer l'individu avant la communauté. Puis, j'espère que ça vous a béni, puis je vous souhaite une bonne fête des Pères. Amen. Des lunettes par lesquelles on peut voir. Et dans Ecclésiaste, tu nous dis, tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Seigneur. Déjà, dans le Jardin d'Éden, l'homme cherchait son propre bénéfice au détriment des autres, Seigneur. Et on a vu qu'est-ce que ça créait, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur, tu ne nous dis pas de ne pas chercher non plus nos intérêts, mais tu nous demandes, Seigneur Dieu, de chercher ceux d'autrui avant les nôtres, Seigneur. Comme tu as fait, Seigneur, venant dans le monde. Aide-nous pour que ce soit vrai, Seigneur Dieu, dans ces relations-là avec nos pères et avec nos enfants. Montre-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, puis donne du courage à chacun d'entre nous ici, Seigneur. Peut-être qu'il y a des relations qui sont brisées, Seigneur. Des relations qui ont besoin de pardon, de grâce, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, que tu aides les chrétiens à prendre ce défi de montrer que de votre côté, c'est la paix. Et puis, la possibilité de, s'il n'y a pas d'abus, la possibilité de créer des ponts. Seigneur, fais de chacun des chrétiens ici des messagers de ta grâce. Ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, ceux qui ont perdu des pères, c'est ceux qui auraient fait lever des sentiments concernant la perte d'un père, Seigneur. Tu es le Père dans les cieux. Prends soin d'eux, Seigneur. Pour tous ceux d'entre nous qui n'avons pas reçu de ce qu'un père aurait été supposé de nous donner, comme nous conduire à Dieu, par exemple. Eh bien, Seigneur, on voit dans ce message que c'est quand même ça que tu voulais. Tu aurais aimé, Seigneur, que nos pères nous conduisent à Dieu. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mais ça n'enlève pas l'intention initiale que tu as eue envers chacun d'entre nous. Alors, on peut se partir avec le Père céleste avec nous. Amen. Bon dimanche!
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.